Le mag de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Territoria, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Je suis ravi de vous retrouver. Le sujet du jour, un petit peu technique, il va concerner la plateforme SIAP, Système d'information des aides à la pierre, qui est le futur outil d'instruction des aides à la pierre et des conventions APL, aide personnalité au logement. Il est en cours de développement par le ministère de la transition écologique, la cohésion des territoires. Alors l'objectif de cette nouvelle plateforme, programmer, instruire, générer les demandes de financement des logements sociaux, ainsi que rédiger et instruire les conventions APL via sa brique Apilos. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, on va tout savoir dans un instant. Au-delà, son objectif est de suivre l'intégralité d'un projet de logement social depuis l'idée de construire un logement pour un bailleur jusqu'à la démolition de l'immeuble. Voilà tout le cycle de vie en passant par toutes les étapes importantes de la vie d'un logement. Alors, les questions sont nombreuses. Pourquoi et comment cet outil est développé? Quand sera-t-il opérationnel? Quels seront ses potentiels utilisateurs? Quels sont ses avantages par rapport aux applications qui existent aujourd'hui, Galion et Coloweb, qui va remplacer donc dans quelques semaines, quelques mois, on aura tout sur les dates. Eh bien, on va demander tout ça à nos experts. Pour cette émission, je suis accompagné de Sabine Marigny. Bonjour Sabine.
Bonjour.
Vous êtes intrapreneur à la fabrique numérique du projet Apilos. C'est la brique conventionnement de la plateforme SIAP, c'est bien ça?
Exactement.
Voilà, on va tout savoir donc avec vous. On est également en compagnie de Laurent Bresson. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et de Stéphane Flau. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Laurent et Stéphane, respectivement sous-directeur et sous-directeur adjoint des politiques, attention je prends mon élan, de l'habitat du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui est la sous-direction en charge de développer donc la plateforme SIAP. Enfin, Michel Félab, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la mission mobilisation des territoires à la DGALN, donc Direction Générale de l'Aménagement du Logement et de la Nature, au sein du même ministère. Michel, vous relayerez tout à l'heure pour nos invités les questions que vous pouvez poser dès à présent dans le chat de l'émission. Ça sera après les explications. Tout de suite, on démarre avec donc la thématique du jour.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
On démarre avec vous, Laurent Bresson. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de contexte et de l'objectif donc, de ce projet SIAP?
Alors, ce projet SIAP, il vise à répondre à plusieurs très grands enjeux de la politique du logement. Le premier de ces grands enjeux, au final, c'est l'objet lui-même, les aides à la pierre. De quoi s'agit-il? On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que des aides qui viennent supporter, qui viennent soutenir la construction de nouveaux logements locatifs sociaux en France. Et vous savez que dans notre pays, il y a actuellement plus de 2 millions de demandeurs d'un logement social, en particulier d'ailleurs dans des zones très tendues, dans des zones urbaines, des grandes zones urbaines très tendues, dans lesquelles le développement d'une offre nouvelle de logement social revêt un enjeu particulier. En moyenne, au cours des dernières années, on produit de l'ordre de 100 000 logements par an, donc c'est extrêmement conséquent. 100 000 logements par an, c'est à peu près 15 milliards d'euros d'investissement. Vous voyez tout de suite le niveau d'enjeu également pour l'économie de nos territoires. Et d'une certaine manière, pour accompagner cet effort d'investissement considérable des bailleurs sociaux, plusieurs aides sont mobilisées, des aides fiscales, des aides de taux bancaires, des aides sous forme de subventions, en particulier les subventions du Fonds national des aides à la pierre. C'est quasiment 500 millions d'euros par an. Et vous voyez que finalement, pour gérer un tel enjeu, pour gérer des aides aussi conséquente, il y a vraiment besoin d'un système d'information performant, d'un système d'information qui soit à la hauteur. Et ça, c'est le premier grand enjeu. Le deuxième grand enjeu, c'est que ce projet SIAP, il vise aussi à répondre aux nouvelles attentes fort légitimes des acteurs qui se sont étoffés en matière de production. La production de logement social, finalement, aujourd'hui, implique de plus en plus de partenaires, de plus en plus d'acteurs. Et les outils actuels, SPLS, Galion et Coloweb, qui sont relativement anciens, 15 ans, voire un peu plus, ne sont plus à même aujourd'hui de répondre à toutes les nouvelles attentes de ces acteurs. J'en cite un exemple. Par exemple, on peut aujourd'hui citer le cas de le meilleur suivi des livraisons de logements sociaux. Aujourd'hui, ce suivi des livraisons est très difficile à envisager à outils constants. Et du coup, on le voit bien, avec ce nombre d'acteurs supplémentaires, aujourd'hui plus de 115 collectivités territoriales sont délégataires des aides à la pierre, c'est-à-dire par délégation de l'État sur 115 territoires délivrent ces aides, ont également des attentes légitimes que les outils actuels ne permettent pas ou très difficilement d'intégrer. Le troisième enjeu, c'est de répondre, il faut quand même l'avouer, à une certaine obsolescence technique. Alors, rien de très anormal quand on a affaire à des systèmes d'information qui ont plus de 15 ans. Mais cette obsolescence technique, aujourd'hui, elle pèse. Elle pèse en matière de coûts de maintenance, hein, qui sont évidemment par définition élevés. Et puis, cette obsolescence technique, elle vient aussi rendre plus difficile toute évolution que l'on souhaite apporter dans les systèmes d'information, parce qu'on apporte aujourd'hui quand même au quotidien déjà des informations. J'en citerai deux exemples. Hein. L'an dernier, quand il s'est agi de développer les nouvelles aides du plan de relance, nous avons opéré des développements complémentaires dans les systèmes actuels, mais ces développements complémentaires se sont avérés très lourds, ils se sont avérés aussi risqués, parce qu'on touche à l'architecture même de produits qui sont anciens. Et puis, je citerai aussi un autre exemple pour illustrer nos nouveaux enjeux, qui est d'intégrer de la simplification, et ça c'est une politique constante que nous avons, de simplifier, j'allais dire constamment, le dispositif de distribution des aides à la pierre, le dispositif d'agrément des logements locatifs sociaux. C'est très difficile dans les produits tels qu'on les connaît aujourd'hui, et je vous passe évidemment la problématique aussi des interfaces visuelles qui sont véritablement d'époque. Et puis quatrième et dernier grand enjeu que je voudrais citer qui sous-tend ce projet SIAP, c'est répondre au défi de l'interconnexion. Aujourd'hui, tout système d'information, quel qu'il soit, rentre dans un écosystème avec lequel il doit s'interconnecter. Et aujourd'hui, les systèmes actuels sont très difficilement interconnectables avec d'autres. Et je citerai là aussi deux exemples très concrets. Hein. L'enjeu de s'interconnecter avec le répertoire du parc locatif social, le RPLS, qui est en quelque sorte la base de données sécurisée du logement social en France. Notre objectif, c'est évidemment d'y interconnecter directement le SIAP. C'est difficilement envisageable avec les outils actuels. Et j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on a 115 collectivités qui sont délégataires des aides à la pierre. Il est aussi normal de pouvoir y interconnecter facilement leur système d'information, le système d'information aussi des centaines de maîtres d'ouvrage, de bailleurs sociaux qui légitimement attendent une connexion avec nos propres outils.
Très bien, Laurent Vassion. On entend mieux, hein, effectivement, les grands enjeux, obsolescence technique, enjeux de simplification, l'interconnexion avec les systèmes existants. Et on sait que c'est compliqué dans ces systèmes informatiques. C'est vrai qu'on ne part pas d'une feuille blanche. On n'est pas dans une start-up qui démarrerait avec les nouveaux outils. Il faut aussi prendre en compte ce passé. C'est un peu compliqué. Et puis, bien sûr, peut-être demain, interface visuelle. On est tous habitués à des outils dans notre vie de tous les jours avec les réseaux sociaux, etc. Des choses extrêmement simples. On se retrouve dans des outils peut-être un peu décalés. Alors, je me tourne vers vous, Stéphane Flao. Pourquoi on parle de plateforme ? Racontez-nous quels sont exactement les avantages par rapport justement à l'existant EcoloWeb et SPLS Galion.
Oui, tout à fait. La notion de plateforme, elle est vraiment au cœur du projet SIAP. Alors, comment est née cette idée de plateforme ? D'abord, c'est une remontée des besoins de terrain. Parce qu'on a, lorsqu'on a lancé l'idée du projet SIAP il y a 2 ans, on a commencé par un tour de France. C'est-à-dire qu'on est allé voir les utilisateurs sur le terrain, qu'ils soient dans les services de l'État, dans les services des collectivités, qu'ils soient au niveau départemental, infra-départemental, régional, qu'ils soient chez les bailleurs, qu'ils soient dans les services de l'État. L'idée était de se faire un avis réel sur ce qui se passait réellement. Et ce qu'on a constaté, qui était notre intuition, hein, pour ne pas le cacher, c'est que les acteurs étaient multiples, ça on le savait, que les outils étaient finalement fragmentés selon la thématique qu'on appréhendait, c'est-à-dire qu'il y avait des outils chez les bailleurs pour faire du financement, des outils chez les bailleurs pour faire du conventionnement, et leur pendant à l'État et leur pendant au niveau régional. Et donc l'idée, le diagnostic d'abord, c'était que les outils étaient fragmentés et non connectés. Et donc l'idée de la plateforme, c'est pour venir améliorer cet état des lieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par exemple, les bailleurs vont déposer leur demande de financement sur cette plateforme. Ça veut dire qu'ils vont déposer leur projet de convention APL sur cette plateforme et qu'ils viendront y chercher les résultats de cette instruction. De même, les services instructeurs, État ou collectivités, viendront instruire, alors via le SIAP s'ils le souhaitent, puisqu'il y a un module d'instruction du financement et ou du conventionnement qui est dans le SIAP et qui sera toujours à jour de la réglementation, qui va embarquer même à sa livraison les évolutions réglementaires que nous sommes en train de penser en termes de simplification.
Ça veut dire qu'il y aura une mise à jour automatique ?
Alors, on est vraiment dans un processus d'abord de livraison, puis ensuite de mise à jour continue. Voilà. Et l'autre idée, c'est que le SIAP donc intègre Apilos sur le module conventionnement, c'est que les services instructeurs pourront rendre également très rapidement le résultat de leur instruction, alors que parfois le déversement dans des bases de données nationales peut prendre jusqu'à 10 ou 11 mois. Donc c'est aussi pour tout le monde, puisqu'on est une plateforme ouverte, connectée, mettre à disposition de l'information de façon plus fiable et plus rapide que maintenant. Voilà en gros l'idée de la plateforme, c'est donc de remplacer les outils existants, mais aussi finalement de créer le pendant numérique à la chaîne de production du logement social.
Et ça, depuis, donc on le disait, depuis sa programmation jusqu'à sa démolition.
Exactement.
Toute la chaîne de valeur. Juste une question un petit peu annexe. Auparavant, on avait des logiciels installés où c'était quand même tout web-based sur Internet. C'est accessible par tout un... Comment on y accède ?
Alors, les services y accédaient par Internet, mais il y avait deux choses. C'est-à-dire qu'on pouvait accéder, mais ça ne veut pas dire que la donnée était publique, était accessible, etc. C'est-à-dire que c'était plutôt une architecture qui était fermée, qui était essentiellement basée sur la production de l'acte, hein, c'est-à-dire produire la décision de financement, produire la décision de conventionnement. L'idée, là, maintenant, c'est...
C'est la rendre dynamique.
C'est la rendre dynamique.
On avait quelque chose d'assez statique, et on a l'impression que cette plateforme, elle va vers du dynamique.
Et elle va vers du dynamique, et elle est aussi respectueuse de tous les usagers. C'est-à-dire que l'ambition, c'est de stocker la donnée et de ne pas la redemander à l'étape d'après. Et ça, aujourd'hui, comme les systèmes ne sont pas connectés, il y a beaucoup de déperditions de valeur chez tout le monde, parce que on redemande un numéro de convention, on redemande pour payer un solde, etc.
Et donc déperdition de temps,
c'est ça.
Et donc d'énergie, et bien sûr aussi un petit peu de ressources, hein, dans tous les sens. Bon, on passe à vous, Sabine Marigny. On va parler justement de cette brique Apilos. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que c'est, ce que ce module, à quoi il sert ?
Bien sûr. Alors la brique Apilos, c'est le module de conventionnement du SIAP, qui facilite l'accès aux logements sociaux par la simplification des conventions. Ce module pré-remplit et automatise les conventions grâce à un outil sur mesure et évolutif. Comme pour le SIAP, une phase en amont a permis de récolter les besoins utilisateurs. De plus, Apilos s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue et permet donc d'intégrer les nouveaux besoins en temps réel. Parce que oui, Apilos est déjà en ligne et utilisé par une cinquantaine de bailleurs et une quinzaine de départements. En effet, il s'agit d'un projet porté par la Fabrique Numérique pour lequel j'agis en tant qu'intrapreneur.
Ça fait combien de temps à peu près que ça existe ?
Alors, ça fait un an que le projet Apilos existe. Mmh. Il a été mis en ligne pour le côté bailleur en septembre 2021, en novembre 2021 pour les côtés instructeurs, puisqu'il y a les deux côtés. Et depuis janvier, il y a eu un appel à candidature pour l'expérimenter en France entière.
Donc cette brique, elle est destinée à tous les acteurs de la chaîne, hein ?
Exactement. Effectivement, tous les acteurs de la chaîne. Donc les services déconcentrés, tout ce qui est DDT, DDTM, Drill, Dreal, etc. Les collectivités délégataires que tout à l'heure parlait Laurent Bresson, donc les 115 collectivités délégataires qui risquent en plus d'augmenter avec le temps. Les bailleurs des logements sociaux, mais aussi tous les partenaires sur les conventions APL, donc les CAF, tout ce qui va être CAF, MSA pour le côté agriculture, préfecture, etc. Il y a trois objectifs principaux de cette brique. Les trois objectifs sont 1. L'accélération de la saisie pour les bailleurs de logements sociaux, puisque c'est un formulaire qui est déjà pré-rempli avec les informations qu'on connaît au niveau de l'agrément. 2. Faire gagner en rapidité l'instruction pour les instructeurs, il y a des contrôles qui existent. Et enfin, à terme, disposer de statistiques en temps réel sur les logements conventionnés.
Très bien. Stéphane, justement, pourquoi on a intégré cette place Apilos finalement dans le SIAP et ne pas avoir privilégié une simple interface ?
C'est du pragmatisme, parce que déjà Apilos est lancé, donc les bailleurs et maîtres d'ouvrage qui veulent le tester d'ores et déjà avec l'infrastructure existante, avec ses limites hein, bien sûr, mais peuvent le faire. Donc déjà il y a un effet un peu d'opportunité, hein, un produit qui est lancé, ça vaut le coup de le maintenir. Le deuxième, c'est que le constat, il est, je pense que les auditeurs le partageront, c'est que les processus de conventionnement et de financement sont intriqués. C'est-à-dire qu'on touche finalement les mêmes utilisateurs, les mêmes personnes qui travaillent tous les jours. Et donc du coup, L'idée d'avoir un seul outil au lieu de plusieurs, quand même, ça tombe un peu sous le sens quand on se pose la question d'opérer une opération de rénovation profonde des systèmes d'information. Le deuxième enjeu, c'est très clairement aussi la rationalisation, c'est-à-dire que deux outils à entretenir, à faire vivre, parce que les évolutions réglementaires sont nombreuses, bah c'est lourd. Voilà. L'idée a été pour nous de se dire on marie les deux outils. Le SIAP est la plateforme d'entrée unique et l'engagement que prend le ministère, c'est que pour l'utilisateur, ça sera sans problème, ça ne sera pas visible, qu'il fasse du conventionnement, du financement, il clique, et puis voilà, les process se mettent en place. Donc, un mode qu'on appelle, nous, sans couture, ça c'est un engagement. Et le deuxième engagement, c'est l'idée de plateforme, c'est au maximum, dites-le nous une fois. C'est-à-dire que les données que vous aurez rentrées dans le SIAP, vous les retrouverez dans la démarche qui suit, dans la genèse du logement social. Voilà.
Donc on va concentrer aussi un grand nombre de data au même endroit, qui pourront être exploitées, mieux utilisées demain.
Et plus mises à disposition, c'est exactement ça, oui.
Très bien. On passe à vous, Laurent. On se pose la question, justement, de cette... on l'a vu, la forte intégration d'Apilos dans le SIAP. À part ça, quelles sont les autres interfaces prévues qui feront du SIAP une véritable plateforme ?
Alors, ces interfaces, elles sont d'ores et déjà très nombreuses. Et ce que je vais vous dire là n'est d'ailleurs pas limitatif. On peut en envisager à terme beaucoup d'autres. Il y a tout d'abord des interfaces qui sont prévues dès le démarrage du SIAP, dès 2023, dans sa première livraison, avec une première interface qui est absolument essentielle, qui est l'interface avec Chorus. Chorus est le système qui permet de gérer la dépense de l'État, et donc les engagements et les paiements. Cette interface, elle est absolument essentielle, puisque, comme je le citais tout à l'heure, le SIAP va permettre de gérer annuellement de l'ordre de 500 millions d'euros de subventions nationales composantes des aides à la pierre. Donc ça, c'est une première interface essentielle. Une deuxième interface qui est très importante aussi dès 2023, c'est l'interface avec un infocentre du SIAP, parce qu'on le sait bien, les aides à la pierre, c'est important d'arriver à les gérer et à les distribuer, mais c'est également très très important de pouvoir exploiter la donnée que vous évoquiez à l'instant. Elle est extrêmement précieuse, cette donnée, pour illustrer, pour orienter, pour évaluer, pour ajuster la politique publique du développement de l'offre de logement social. Et donc cet interfaçage avec un infocentre simple d'utilisation et d'une certaine manière très largement ouvert est absolument essentiel. Et puis la troisième interface que je voudrais citer, que l'on vise aussi évidemment dès la première année, dès 2023, c'est l'interfaçage avec les systèmes d'information des collectivités locales délégataires des aides à la pierre qui ne souhaiteraient, elles sont aujourd'hui très très peu nombreuses, mais qui ne souhaiteraient pas utiliser le SIAP, même si bien évidemment l'État met à leur disposition gratuite ce service numérique, cet outil qu'est le SIAP, mais on peut imaginer aussi qu'elles souhaitent utiliser un produit tiers, il en existe sur le marché, elles sont aujourd'hui peu nombreuses à le faire, mais quand bien même elles souhaiteraient le faire, elles doivent pouvoir évidemment s'interconnecter au SIAP, de sorte que celui-ci soit alimenté en permanence avec les résultats de leur activité en temps réel. Donc ça, c'est dès l'ouverture dès 2023. Et puis, juste après, dans l'étape suivante, parce que après, les développements du SIAP se poursuivent, évidemment, à l'horizon 2024, deux objectifs d'interconnexion sont les nôtres. D'une part, l'interconnexion avec le fameux RPLS, le répertoire du parc locatif social que j'évoquais tout à l'heure. C'est très important parce que, d'une certaine manière, le SIAP va permettre à terme, en tout cas c'est notre ambition, une immatriculation automatique des logements financés dès lors qu'ils auront été effectivement réalisés, dès lors qu'ils auront été livrés. Et ça supprimera du coup le travail d'enquête annuelle pour alimenter ce RPLS qui pèse aujourd'hui sur les maîtres d'ouvrage. Et puis, les maîtres d'ouvrage, justement, sont au cœur aussi de nos préoccupations. Et leur simplifier la vie est une de nos priorités à l'occasion de ce projet SIAP. Donc là, je parle bien des bailleurs sociaux. Notre objectif en 2024, c'est l'interfaçage avec les systèmes d'information des maîtres d'ouvrage, de sorte que eux-mêmes n'aient pas à saisir leurs opérations, leurs demandes de financement, leurs demandes de paiement, mais qu'ils puissent directement, finalement, par l'interconnexion avec leur propre système d'information maison, pouvoir le faire sans couture.
Ça, si on s'intéresse également aux bailleurs, là, peut-être qui nous écoutent, ça veut dire que quel que soit pour eux le territoire de leurs opérations, l'outil d'instruction utilisé, le SIAP sera désormais leur seule interface.
Oui, Oui, c'est exactement ça. Ce sera leur seule interface, ça sera le lieu...
Le point d'accès unique.
Le point d'accès unique de dépôt, de récupération d'informations à chaque étape, parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui permettent d'arriver à la construction, à la livraison, et puis ensuite qu'il y ait d'évolution du logement social. C'est aussi le sens des évolutions réglementaires que nous pilotons à la DGLN et à la DHUP. L'idée, c'est bien de faire une plateforme unique, mais une plateforme qui soit ouverte et qui soit connectée à son écosystème et à tous les SI tiers.
Plateforme unique qui concentre donc les différents autres outils, qui va être dynamique, qui va concentrer la data, qui va éviter de ressaisir les données, ça paraît formidable. Alors, bien sûr, la question peut-être qui fâche, mais on ne l'espère pas. Très concrètement, quand est-ce que ce SIAP sera-t-il opérationnel pour les bailleurs et les services instructeurs ?
Alors, il va y avoir bien sûr plusieurs étapes. Le premier point de rendez-vous, c'est l'ouverture de la gestion comptable de 2023. Donc, on souhaite nous ouvrir le SIAP en fin mars, début avril 2023, dans son périmètre le plus fonctionnel possible, hein, c'est-à-dire pouvoir demander, instruire des demandes de financement et, pareil, pouvoir demander et obtenir des convention APL. Donc c'est vraiment le périmètre fonctionnel, c'est le but, et c'est donc
premier trimestre 2023.
C'est exactement voilà. Ça.
Bon. En général, ça décale les problèmes, mais bon, là, on a essayé de tenir le coup. Alors pour le faire, on sait aussi que il y a la recette, etc. Il y a aussi des bêta-tests. Là, vous allez réaliser, je crois, un grand test grandeur nature.
Exactement. On a mis vraiment les bouchées doubles en termes de développement pour pouvoir profiter de la période estivale qui est quand même plus calme pour tout le monde, pour pouvoir lancer un test grandeur nature du SIAP dans tout son périmètre fonctionnel, c'est-à-dire que d'ores et déjà on a une version qui nous paraît stable et qu'on veut mettre à l'épreuve de la réalité. Donc on a lancé un appel à projet, on a plusieurs candidatures, ce seront des tests qui seront menés à l'échelon de la région et qui embarqueront la chaîne de production. C'est-à-dire qu'on a demandé aux régions de constituer des équipes projets avec des bailleurs, avec des collectivités délégataires, avec des services instructeurs pour jouer un serious game finalement et tester l'ensemble des fonctionnalités, mais en réalité selon le fil de la plateforme. C'est-à-dire quelqu'un va déposer,
Alors,
d'abord sur des projets
fictifs.
Mais qui seront inspirés d'exemples réels. Hein, voilà, c'est évident. Et le deuxième point qui est important pour nos auditeurs, pour la mise en service, c'est que nous sommes dans un chantier qui est très important, mais très sécurisant pour eux, c'est-à-dire que nous reprenons les données des applications existantes, donc de Galion, de SPLS et d'Ecolo Web. Et donc, notre ambition, c'est qu'en mars 2023, et après des tests également, nous mettrons à disposition la donnée historique de tous ces 15 années de financement et de conventionnement.
Voilà, donc test à l'été 2022, test pilote, les serious games, donc ces jeux sérieux, hein, finalement, on teste la plateforme et il y aura bien sûr une remontée de données, des choses, ça va pas, ça fonctionne ou pas, la grande mise en service, donc premier trimestre 2023. Sabine, on parle d'Apileus qui est déjà disponible aux utilisateurs. Est-ce que vous pouvez nous faire, vous, un point d'avancement sur la situation du projet ?
Bien sûr. Donc là, à l'heure actuelle, Apileus est en ligne, il est utilisé. On fait effectivement 98% des besoins de conventionnement, puisqu'on a toutes les conventions, parce qu'il faut savoir c'est que dans le conventionnement APL, il existe 5 types de conventions APL. Donc à l'heure actuelle, on fait 100% des logements sociaux, donc on fait la totalité des bailleurs, quelle que soit leur catégorie. Et effectivement, dès cet été, on sera aussi intégré à l'expérimentation qui sera du coup cet été, que disait tout à l'heure Stéphane Flao. Et toujours dans un but d'amélioration, l'équipe Apileus va aussi instruire des chantiers de simplification de la réglementation en vue d'harmoniser les pratiques. En effet, les startups d'État, puisque on est startups d'État, ont vocation de construction perpétuelle, c'est-à-dire challenger constamment les pratiques pour les faire évoluer. C'est l'une des raisons de vivre des startups d'État.
Bah bien sûr. Alors, on le sait, Stéphane, on revient à vous. Des nouveaux outils, quels qu'ils soient, c'est vrai qu'on change un petit peu les habitudes. En général, tout le monde veut le changement, mais quand il arrive, il faut aussi s'y mettre. Alors, l'enjeu, c'est aussi la formation, l'explication, la pédagogie. Quel dispositif, là, que vous avez prévu ?
Oui, c'est vrai que le SIAP, je le répète quasiment quotidiennement, ça n'est pas qu'un projet informatique, c'est avant tout un projet qui bénéficie d'un dispositif d'accompagnement. Voilà, et qu'on essaye de penser au plus juste et au plus près de ses futurs utilisateurs. c'est forcément une formation à large échelle parce qu'on touche tout le territoire national et comme on l'a dit, on touche de multiples acteurs. Et notre ambition, c'est d'aller former chacun de ces acteurs, préférentiellement en présentiel d'ailleurs, c'est notre intention. Et donc, qui doit-on former ? On doit former les services instructeurs de l'État et des collectivités délégataires. On doit former les échelons de pilotage qui sont plutôt au niveau régional. On doit former aussi les bailleurs qui seront la clé de voûte puisqu'ils devront déposer, instruire, enfin voilà. Donc on est dans une phase actuellement, on a lancé une enquête en ligne sous pilotage de nos directions régionales pour avoir le meilleur calibrage du dispositif. On sait d'ores et déjà qu'on s'appuiera donc sur des formateurs relais dans les régions pour commencer dès l'automne des formations sur le terrain, sur des versions les plus stables possibles pour que tout le monde soit formé en avril, au plus tard en avril 2023. Voilà, ça c'est notre engagement.
Pour nous donner une idée, ça fait combien d'utilisateurs ?
C'est pour nous plus de 3500.
Ah oui.
C'est plus de 3500 sur tout le territoire. Y compris dans les Outre-mer, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc du coup, ça veut dire un véritable dispositif pour former, et donc le calibrage de tout cela se passe actuellement.
Et oui, voilà, donc cet enjeu de formation pour que tout le monde s'empare aussi de l'outil et fasse ses remontées.
Je pourrais ajouter, oui, que donc on vise des formations donc par des formateurs relais au niveau régional, donc plutôt en présentiel. On envisage aussi un espace digital de formation avec des ressources qui pourront être
Du tutoriel vidéo,
exactement.
Des webinaires, on imagine,
exactement.
Toute la panoplie qu'on connaît bien, un peu trop bien même sur ces deux dernières années, on a pu évidemment tester. Allez, une dernière question avant de passer aux vôtres, hein, qui sont nombreuses. Une dernière question, c'est pour Laurent Bresson. Ces collectivités, les bailleurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dès à présent pour finalement anticiper ce nouvel outil ?
Alors, on vient de voir au travers du propos de Stéphane l'importance de cet écosystème utilisateur qui est extrêmement développé. En réponse à cette importance, je crois pouvoir dire qu'on a eu une très très forte attention pour ces utilisateurs depuis le tout début de la conception du projet SIAP. Alors, c'est passé notamment, principalement, par un principe d'association de l'ensemble des composantes de l'écosystème, et ce, dès le début du projet, au travers d'un groupe ressources, qui lui-même est très pluridisciplinaire, puisque dans ce groupe ressources, vous trouvez des représentants des maîtres d'ouvrage, des collectivités délégataires, des associations régionales d'organismes HLM, mais aussi des services de l'État, direction régionale, direction départementale, et en particulier les DDT et DDTM qui sont évidemment à la manœuvre sur le terrain en matière d'aide à la pierre. Donc ça, c'est un premier point très important. Il y a eu une très très forte association qui se poursuit et qui se poursuivra jusqu'au bout. Deuxième chose, c'est que Sabine l'a dit, et je vais insister sur ce point, dans les départements qui ont déjà fait le choix d'Apilo, qui l'ont adopté, l'ensemble des acteurs peuvent déjà bénéficier des services apportés par cette nouvelle plateforme numérique qui est absolument essentielle. Et bénéficier de tous les apports du service Apilo. Le troisième point qui va concerner, lui, pour le coup, un certain nombre de territoires qui seront retenus pour l'expérimentation, c'est la participation à ce test grande échelle qu'on a prévu sur l'ensemble de la période estivale 2022 dont on attend évidemment des résultats pour améliorer encore, avant sa livraison finale, améliorer encore le produit si besoin en était. Et puis, vous l'avez compris, et ça pour le coup c'est pour tout le monde, à partir du mois de septembre, toute une série de webinaires de présentation du SIAP, qui seront d'ailleurs très largement aussi un exercice de véritable formation d'une certaine manière, vont être organisés, soit plus de 6 mois avant l'ouverture du service, et bien évidemment, pour le coup, il appartient à l'ensemble des utilisateurs de se tenir prêt dès à présent à participer très largement, en grand nombre, à ces webinaires de présentation.
Voilà, et pour ceux qui souhaitent participer au test Grandeur Nature, à qui peut-on s'adresser ? Pour les auditeurs.
Alors, le plus simple, c'est pour ce qui concerne les maîtres d'ouvrage, par exemple, ou les collectivités territoriales qui souhaiteraient participer à l'expérimentation SIAP, c'est de contacter les services déconcentrés de l'État, direction départementale des territoires et de la mer, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les DREAL, qui sont évidemment les échelons sur lesquels nous nous appuyons pour sélectionner les territoires d'expérimentation. Il n'est pas encore trop tard pour le faire, mais par contre, il faut faire vite parce que notre objectif est d'avoir bouclé la sélection dans les jours qui viennent.
Parfait, on en sait un petit peu plus du coup sur ce SIAP, ce système d'information des aides à la pierre, tout nouveau. On a parlé de plateforme, quelque chose d'assez enthousiasmant finalement, en tout cas qui devrait aider dans les années à venir à aller plus vite, gagner du temps et peut-être économiser un peu d'argent, tant mieux. En tout cas, faciliter la vie de tous les utilisateurs. Restez avec nous, Sabine Marigny, Laurent Bresson, Stéphane Flao sont avec nous. Et tout de suite, je vais passer la parole à Michel Fellep pour les questions des auditeurs.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Alors Michel Fellep, les questions sont nombreuses, le sujet a passionné les auditeurs.
On a en effet plusieurs questions sur le chat de l'émission. Les premières ont été posées en début d'émission, donc je pense qu'on y a déjà répondu. Je vais néanmoins les rappeler. La première, c'était de la DDT de la Mayenne. Est-il prévu une interconnexion avec Corus, notamment pour les délégataires qui reprendront en charge l'instruction en régie? Donc la réponse est bien oui, et dès mars 2023.
Oui, je confirme. Je confirme.
Donc la deuxième de Jocelyne, c'est que va-t-il se passer pour les délégataires qui souhaitent conserver leur logiciel Agapeo?
Donc à l'identique, bien évidemment, dès 2023, alors aujourd'hui les collectivités qui utilisent ce produit sont très peu nombreuses, mais en tout cas, quel qu'en soit le nombre, dès 2023, bien évidemment, il sera possible d'interconnecter Agapeo avec la plateforme SIAP.
Et ensuite, on a deux questions qui se rejoignent sur le parc privé, qui nous disent « SIAP ne concernera que le parc public. Qu'en est-il à terme de la gestion du parc privé et de l'ANA ?»
Là, pour le coup, on est sur deux systèmes d'intervention complètement différents. Les aides au parc privé, en fait, sont aujourd'hui des aides qui sont distribuées par un établissement public, un établissement public national qui est l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Et bien évidemment, l'ANA est déjà très outillée en matière de système d'information. Elle a déjà sa direction des systèmes d'information et elle est très affûtée sur ces questions-là. Et vous le savez, compte tenu d'ailleurs de l'importance des aides qu'elle gère, qui ne cesse de s'accroître, bien évidemment, c'est un enjeu majeur pour elle que d'avoir des systèmes d'information eux-mêmes très interconnectés et très performants. Bien évidemment, à l'occasion de ce projet SIAP, nous n'embarquons pas les systèmes d'information de l'ANA en tant qu'établissement public, qui conserve évidemment la pleine maîtrise de ces dispositifs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas, si je puis dire, de croisement, notamment en termes de flux financiers, entre les dépenses dont nous parlons aujourd'hui, les aides à la pierre pour les bailleurs sociaux, et les interventions en direction du parc privé.
Merci Laurent. Alors une question de Claire, une double question, je pense que c'est pour Sabine. Que deviendra le conventionnement existant versé sur EcoloWeb? Donc je crois qu'on a dit tout à l'heure que ce serait repris dès 2023, mais aussi comment seront instruits les avenants aux conventions existantes?
Alors effectivement, EcoloWeb et toutes les données qui sont dans EcoloWeb seront bien mis sur Apilo dès mars 2023 pour pas que les données soient perdues pour les départements qui ont bien rempli EcoloWeb. Et enfin, pour les avenants, effectivement, il y aura aussi les avenants qui seront disponibles sur Apilo en mars 2023 pour pouvoir effectivement faciliter l'instruction des avenants.
Et une autre question de Myriam, toujours pour vous Sabine. Le conventionnement pour les bailleurs de type commune est-il ou sera-t-il pris en compte dans Apilo et quid des PLS?
Alors, pour les communes, première question, effectivement, et c'est déjà le cas à l'heure actuelle, comme on couvre toutes les conventions APL de type bailleur 1 et type bailleur 2 pour les personnes à qui ça parle, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les communes qui sont tout à fait possibles, et pour le conventionnement sans travaux aussi, c'est en cours. Et concernant la deuxième question par rapport au PLS, c'est aussi intégré dans Apilo, si je comprends bien la question.
Il y a une autre question encore sur la possibilité de passer par Apilo en Gironde. Je ne sais pas trop pourquoi, il y a un cas particulier sur la Gironde.
Alors effectivement, si la Gironde souhaite passer sur Apilo, c'est tout à fait possible. sur notre site internet apilo.beta.gouv.fr et ils ont l'adresse mail dans l'aide en ligne pour pouvoir nous contacter et pour pouvoir être intégrés sur Apilo.
Je comprends, ça veut dire que ceux qui rentrent maintenant dans Apilo finalement vont s'y retrouver, il n'y aura pas de changement majeur par rapport à la prochaine version?
Absolument pas. En réalité, la seule différence qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que tout ce qui est agrément est récupéré donc sur les anciens logiciels et donc du coup, ce n'est pas en direct et par conséquent, il peut y avoir un décalage entre le moment où ils font l'agrément et le moment où ils font le conventionnement. Demain, grâce au SIAP, ce sera totalement intégré et Apilo sera totalement intégré au SIAP et du coup, ça pourra tout se faire en direct.
Michel, autre question.
Autre question, encore sur Apilo. Apilo sera disponible également, sera-t-il ou elle, disponible également pour les dossiers de reconstitution de l'offre en rue?
Totalement, l'ANRU est totalement intégré à Apilo, c'est déjà le cas à l'heure actuelle, il faudra juste que je voie pour qu'effectivement ce puisse être beaucoup plus facile qu'à l'heure actuelle, mais c'est tout à fait possible même actuellement de le faire.
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Oh.
Alors on a une dernière question, enfin qui reprécise les questions liées à l'ANA et au parc privé. La question concerne en fait le conventionnement ANA et non la gestion des aides. Est-ce que ce conventionnement ANA peut être géré dans Apilo?
Alors actuellement non, mais on va essayer de voir avec l'ANA dès janvier 2023 pour voir avec eux ce qui existe à l'heure actuelle sur le conventionnement ANA au niveau de l'ANA, parce que ça existe, et voir comment on peut l'intégrer et comment l'améliorer.
Mmh. Donc ben voilà, en tout cas on sent que ça mobilise hein, les auditeurs, que tout le monde est dans les starting blocks pour utiliser ces outils, bon, qui sont déjà très utilisés. Est-ce qu'on a le nombre, Stéphane, d'interactions, combien de requêtes par jour? Vous avez fait ces statistiques ou pas trop?
Non, je ne les ai pas, moi, honnêtement.
Mais on peut imaginer que le service à l'avenir va être encore plus utilisé, surtout si c'est interfacé, si c'est plus simple.
Forcément, forcément.
Parce que vous nous avez parlé au début, vous êtes que quand même c'est un produit, une plateforme créée grâce aux remontées vous avez eues, et pour ceux qui vont s'en servir demain, ça veut dire qu'il y avait déjà ces questions, on voulait quelque chose de plus fluide, de plus visuellement intéressant, etc. Oui, demain, ça va être, si on s'en empare plus facilement aussi, on peut imaginer que les gens vont aussi encore vouloir améliorer encore plus le produit.
Oui, et c'est bien l'idée, hein, c'est-à-dire que l'histoire ne s'arrête pas à la première livraison. Ouais. Et on aborde d'ailleurs les choses de façon très modeste. C'est pour ça qu'on le teste au grandeur nature. Et on sait que forcément, cette plateforme, elle va se développer dans le temps. C'est-à-dire qu'on aura besoin des retours. On ne peut pas penser en tout parce qu'on est à Paris. Et donc, l'idée, c'est bien de rester sur ce concept. C'est-à-dire qu'il faut un endroit où tout le monde se retrouve. Quand on produit du logement social, que ce soit au stade de l'idée, que ce soit au stade du financement, du conventionnement, de l'avenant, etc., le réflexe, c'est soit le SIAP et que le SIAP devienne un bien partagé par tout le monde, par l'État, par les collectivités, par les bailleurs, et qu'on y retrouve l'information qui finalement était éparpillée, émiettée. Mmh. Voilà, c'est tout simplement ça. Et cet intérêt bien senti de tous fera que on aura finalement un meilleur pilotage de la chaîne de production du logement.
Eh bien, voilà, avec aussi une data, puisqu'on en parle beaucoup, beaucoup plus fine pour analyser, peut-être pour demain, pour prévoir. Exactement. Aussi et anticiper les besoins des usagers, des utilisateurs. Un grand merci à tous. On en sait donc un petit peu plus sur cette plateforme SIAP, le système d'information des aides à la pierre, bien sûr, hein, si vous avez raté le début, réécoutez sur Radio Territoria. Un grand merci à nos invités. Merci Sabine Marigny. Je rappelle que vous êtes intrapreneur à la Fabrique Numérique, donc du projet Apilos. Laurent Bresson et Stéphane Flao, merci messieurs, c'était très clair. Sous-directeur et sous-directeur adjoint des politiques de l'habitat du ministère de la Transition écologique, la cohésion des territoires, la sous-direction en charge de développer la plateforme SIAP, et puis au standard, j'allais dire. Merci Michel Fedep, chef de la mission mobilisation des territoires à la DGALN au sein du même ministère. C'était un plaisir de vous accompagner pour ce mag merci. De l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.